1, 2, 3, 4.
En guise d'introduction, nous allons montrer pourquoi les mouvements, les échanges sont primordiaux pour toutes les grandes questions que se pose la géographie. La géographie, beaucoup de personnes la voient d'une manière un peu figée, naturaliste, comme la description des vallées, des montagnes, les noms des rivières, des villes et des régions. Mais la géographie, c'est aussi une science qui essaie de comprendre les milieux, les paysages et aussi l'organisation de l'espace et les territoires. Et ce faisant, elle rencontre non seulement du visible, des paysages, mais aussi des paysages statistiques qui sont traçables, par exemple comme ici à l'échelle du monde, où l'on a représenté de manière lissée, généralisée, l'importance du produit intérieur brut, et de manière à faire voir les inégalités très grandes qui existent entre les différentes régions du monde, puisque toute la richesse, pour l'essentiel, se concentre dans les grands pays de l'OCDE et laisse de côté beaucoup de continents comme l'Afrique ou l'Amérique du Sud. Nous avons en effet en géographie des questions fondamentales qui concernent la diversité du monde. Pourquoi est-ce ainsi ici et pas ailleurs? Et parmi ces inégalités qui nous questionnent, certaines sont produites par des concentrations de population qui rassemblent en quelques points du globe des millions d'habitants, comme dans toutes les agglomérations représentées ici par un point noir sur cette carte dressée par les Nations Unies, et même des dizaines de millions d'habitants, comme dans toutes les plus grandes agglomérations représentées par des cercles rouges, qui, vous le voyez, sont particulièrement nombreuses dans certaines régions d'Asie notamment. La géodiversité, c'est aussi une question d'inégalité sociale. Et nous en avons là une indication très forte, figurée par les couleurs d'un bleu plus ou moins intense, qui représente l'indicateur de développement humain élaboré par le PNUD, un service des Nations Unies, à partir d'indicateurs de richesse, d'espérance de vie et également de niveau d'éducation. Nous voyons à quel point il y a des écarts importants entre les pays où les populations sont le mieux servies, encadrées et bénéficient de bons services de santé, d'éducation et d'un niveau de vie qui leur permet de bien vivre, alors que dans d'autres parties du monde, dont l'Afrique et certaines parties du continent asiatique, nous avons des précarités sociales beaucoup plus importantes. Ces inégalités ne datent pas d'hier et elles perdurent, même si on s'emploie à les résorber. La géodiversité, c'est aussi tout l'ensemble des différences qui font que les populations n'ont pas les mêmes pratiques, n'ont pas les mêmes croyances et ne se comportent pas de la même façon, bâtissent des villes qui ont des morphologies ou fabriquent des paysages ruraux qui ont des aspects tellement différents. Et parmi ces éléments de diversité culturelle, il y a bien sûr la langue qui est représentée ici par grandes zones où les personnes pratiquent un même langage et donc peuvent se comprendre. Nous avons une très grande diversité, beaucoup plus grande que celle qui est figurée sur la carte, mais qui rend compte de différences culturelles à l'échelle mondiale. Dans toutes ces cartes que vous avez vues, vous avez pu constater à quel point la proximité géographique avait un effet dans la délimitation des zones que nous avons présentées. En effet, les territoires qui sont construits sur des bases politiques, économiques, culturelles, ou de différences sociales, ces territoires sont souvent des zones continues qui se construisent en contiguïté comme des systèmes à partir de centres qui sont des diffuseurs ou des attracteurs. Et pourquoi en est-il ainsi? Eh bien, c'est que ce qui construit la diversité du monde, ce sont des échanges qui produisent et maintiennent ces territoires en l'état, et ces échanges sont contraints toujours par la proximité. Nous allons en voir un exemple relativement anecdotique à partir de ce graphique dressé par des analystes des faits de délinquance aux États-Unis. Et nous voyons que la fréquence des vols de voitures se produit à des distances relativement courtes entre le domicile de celui qui commet le vol et le lieu où il emprunte la voiture. En général, c'est moins d'une quinzaine de kilomètres. On constate exactement la même chose lorsqu'il s'agit de lieux de cambriolage qui se trouvent en général également dans un rayon d'une dizaine, d'une quinzaine de kilomètres autour de la résidence du cambrioleur. De manière moins anecdotique, tous nos recours aux services dans la vie quotidienne sont également contraints par la proximité. Voici une carte dressée par l'INSEE et l'IGN qui représente les lieux où se rendent pour recourir aux services d'usage assez fréquents les habitants de toutes les communes de France autour des 450 aires urbaines identifiées. Vous voyez que toutes les zones d'influence de ces centres sont quasi circulaires et témoignent donc d'un effet important de cette contrainte de la distance pour recourir aux services. En fait, dans l'espace, les mouvements que nous avons ainsi résumés en les reliant à une distance ou en les cartographiant de manière agrégée autour de centres que nous avions prédésignés en quelque sorte, mais sur les cartes d'échange, en général, ce que nous voyons, ce sont des mouvements qui sont très difficiles à saisir parce qu'ils sont incessants, ils sont très nombreux. Et en général, ils durent peu de temps. Donc, chaque fois que nous allons représenter des échanges, nous allons d'abord nous heurter à des cartes qui sont relativement inextricables. Observons, par exemple, cette carte qui représente les changements de résidence observés entre 2001 et 2006 à l'échelle de la France entière. Nous avons des flux dans tous les sens qui s'entrecroisent et qui sont apparemment très difficile à démêler. Même sur la carte des parcours faits par les étudiants qui se rendent entre leur domicile et leur lieu d'études, même s'ils sont moins nombreux, nous avons encore une apparence de confusion. C'est également la même chose si nous représentons à l'échelle de l'Union européenne les échanges du programme Erasmus par le nombre d'étudiants échangés entre deux universités. Nous avons là également l'impression d'un lacis relativement inextricable. Et c'est encore bien pire si nous passons à l'échelle mondiale avec cette carte du réseau dressée par Facebook, qui semble montrer, et nous verrons que c'est un petit peu un leurre, des échanges d'ampleur mondiale. En fait, ces échanges à très longue distance ont été mis en exergue, mis en avant, alors que ce qui compte surtout sur cette carte, ce sont les échanges contraints par la proximité qui mettent en grande brillance un certain nombre de régions du monde. Et nous allons donc utiliser cette loi de la contrainte sur les mouvements par la proximité comme première loi de la géographie.